Bonsoir. La maire de Rome annonce à partir de 2024 l'interdiction des véhicules diesel, un petit peu comme l'avait déjà décidé notamment Mexico, Madrid et Paris. Oui, ah, le diesel, un sujet très très politique. Avec cette question, ce débat aussi, est-il vraiment dangereux? Les constructeurs, ils s'adaptent, hein. Ils vendent de moins en moins de modèles. Et vous le savez, hier, c'est la justice allemande qui avait donné le feu vert à l'interdiction, eh bien, des vieux modèles. Alors, on voit les maires des grandes villes qui s'attaquent au diesel, on voit la justice qui s'en mêle. Le diesel est-il cerné? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les décodeurs de l'écho, comme tous les soirs, avec les meilleurs acteurs, les meilleurs experts. Tenez, François Roudier est avec nous, porte-parole du CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles. Ah, peut-être nous donnera-t-il à la fin de l'émission les chiffres des ventes d'automobiles neuves au mois de février, parce qu'on est le 28 et demain, normalement, le 1er mars, c'est la révélation de ces chiffres. Rémi Cornubert, grand spécialiste de l'automobile, associé désormais du cabinet Advancy, chargé de la mobilité du futur. Oui, je vous le disais, les maires des grandes villes qui se rebellent contre le diesel, en fait-il partie? Olivier Carré, maire Les Républicains d'Orléans.
104 plus Les Républicains, pardon.
Ah, vous n'êtes plus républicain?
Non.
Alors, maire d'Orléans, comme ça, c'est bien de le préciser, voilà, pour le relevé CSA notamment. Pardon. 115 000 habitants, et puis alors vous présidez aussi Orléans Métropole, 300 000 habitants. Et puis, avec nous, Mathieu Lesage, avocat au barreau de Paris, à la tête, enfin, qui milite aussi dans le think tank, Automobilité et Avenir. Vous êtes quoi maintenant, en fait, Olivier Carré? C'est quoi votre... Rien?
Orléanais,
tout simplement. Voilà.
Orléanais.
C'est simple, hein. Voilà, ça mérite de la simplicité, de la clarté. On a besoin de simplicité. Alors, tiens, que s'est-il passé hier? On va vous le rappeler, hein, la cour administrative de Leipzig, en Allemagne, qui confirmait deux décisions de justice contraignant les autorités régionales à interdire les diesels les plus anciens à Stuttgart, à Düsseldorf, pour assainir l'air, justement. Et au total, 70 villes pourraient être concernées, donc à travers le pays. Ah, c'est une mesure qui secoue, hein, vous le savez, vous l'imaginez. C'est ce que nous raconte Mathieu Sévin.
C'est un véritable cataclysme, non seulement pour les constructeurs automobiles allemands, mais aussi pour l'économie du pays, à tel point que la ministre allemande de l'Environnement a affirmé que ces interdictions des vieux diesels pouvaient être évitées. Elle se donne 2 semaines pour détailler ses propositions, car le risque est que les automobilistes délaissent le diesel pour l'essence. Ce serait alors un véritable coup dur pour Volkswagen, Mercedes et BMW, car aucun des trois ne dispose en Allemagne des capacités de production nécessaires pour répondre à une forte hausse de la demande de motorisation essence. Ils seraient donc obligés de faire fabriquer ces moteurs dans leurs usines à l'étranger, principalement sur leur site chinois. Autre conséquence, ils risquent de se retrouver avec des milliers de véhicules diesel invendables, des modèles neufs et d'occasion, dont les prix de vente vont s'effondrer.
Ah ben ça, on va en reparler justement. Tiens, François Roudier, quand même, la décision de la justice allemande, c'est la méthode dure, la méthode expéditive?
Ah, c'est une méthode assez curieuse par rapport à ce qui s'est passé en France, parce qu'en fait, c'est parti d'en bas, d'attaques contre les mairies n'ont pas voulu réagir, les régions, les landers n'ont pas voulu réagir, donc finalement c'est arrivé au niveau administratif, qui a dit, fédéral, qui a dit, bon ben oui, les mairies peuvent faire quelque chose. Donc maintenant, on va voir si les mairies vont faire quelque chose, donc il y aura encore des attaques. Bon, nous, on a un système quand même beaucoup plus organisé. L'État a défini des normes, ce qu'on appelle les vignettes critères,
Critères
en particulier.
Oui,
et puis après, dans les pouvoirs des mairies qui découlent des pouvoirs de police qui sont passés maintenant dans les mairies, il y a tout un ensemble d'articles sur la circulation où là, nous, on est beaucoup plus réglementé que l'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'était un petit peu le bazar. Sachez qu'il n'y a même pas de vignette, il n'y a pas de... Le débat actuellement se pose sur est-ce qu'on va mettre une vignette bleue, blau... C'est là où on était il y a 2-3 ans. Quoi.
Et la fameuse vignette bleue refuse le gouvernement qui préfère la mettre en place en Allemagne un fonds d'un milliard d'euros pour aider les villes à développer.
C'est très très crispé, hein. C'est très crispé.
C'est un sujet politique,
On voit d'ailleurs au sein de l'industrie automobile allemande, on aperçoit tout ce qui marchait pas très bien. Vous voyez comment les politiques sont impliqués parce qu'ils sont au conseil d'administration de Volkswagen, donc c'est le SPD. Si on empêche les gens de rouler, les électeurs du SPD vont passer chez les amis de l'AFD, donc l'extrême droite allemande. demande, droite, oui. On est dans un pataquès à la fois environnemental, industriel et politique.
Ça, on verra justement en quoi c'est un sujet très politique. Juste, Rémi Cornubert, en effet, beaucoup d'embarras là-bas, et Mathieu Sévin nous le rappelait il y a un instant, Angela Merkel, qui dit bien attention, la décision ne vise pas tout le territoire, ni tous les automobilistes, la ministre de l'Environnement, Madame Hendricks, qui dit bon, attention, les interdictions de circulation restent évitables. Bon. Mesure choc, hein. C'est une pression sur l'industrie automobile allemande ou elle peut véritablement voir le jour en Allemagne, à votre avis ?
De toute manière, la pression, elle existe déjà. Enfin, je pense, indépendamment de cette décision. Ce qu'il faut rappeler aussi, la Cour de justice de Leipzig, elle ne pouvait pas prendre une autre décision parce qu'il y a des lois en Europe. Les villes, elles sont responsables de la santé de leurs concitoyens.
Eh oui.
Même l'Europe peut donner des amendes aux pays en Europe où on ne respecte pas les normes dans les villes. Et il y a même des citoyens qui peuvent attaquer la mairie directement. Donc le maire est responsable.
Bien sûr.
Et donc, alors, ils imposent pas une interdiction, mais ils l'autorisent parce que je pense que légalement ils avaient juste pas le choix de le faire.
Et ben justement, il y en a une qui a pris l'initiative. Alors bon, c'est Virginia Raggi, hein, la maire de Rome, 5 étoiles, elle, qui annonçait ce matin que le centre de la capitale italienne sera interdit aux voitures diesel à partir de 2024. On l'écoute, on revient tout de suite. J'écoute Olivier Carré.
By endorsing the principle of fossil fuel free street declaration, Rome has decided to ban the use of diesel cars from its historical center from 2024. Yeah.
Voilà, elle était dans un congrès international à Mexico, la maire de Rome, Madame Raggi, donc la ville de Milan aussi qui va interdire le diesel à horizon 2030. Olivier Carré, maire donc, eh bien, d'une grande ville française, justement, on voit les taux qui se resserrent, Mexico, Madrid, Paris bien sûr, Athènes, Rome, Milan, bon voilà, et puis d'autres probablement.
Alors on parle de villes quand même qui sont en millions d'habitants, de ménages et de déplacements urbains quotidiens. Par ailleurs, on est sur des zones où la densité de l'habitat, des déplacements, autorise beaucoup de déplacements en transport en commun. On n'est pas dans le cas de la plupart des villes européennes, et notamment des villes françaises, comme la mienne, qui certes fait une agglomération de 300 000 habitants, mais qui reste moyenne par rapport à les villes que vous venez de citer.
J'entends bien, mais pourquoi
ceci
pas
dit, non, mais Ceci dit,
le moins, hein.
Le sujet il reste entier, notamment quand on a des pics de pollution comme ceux qu'on a vécu et qu'on va revivre très probablement. La question des particules fait que on a un certain nombre de questionnements. Nous, la vraie stratégie après, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe justement de l'automobile, d'un schéma qui est très porté au XXe siècle, qui continue d'exister. Chez nous, c'est 52% des déplacements. Demain, ça sera un peu moins de 50, 55 et ça sera un peu moins de 50.
55% des déplacements à Orléans se font encore en voiture.
Absolument.
Bon.
Mais on était à plus de 60 il y a une douzaine d'années. On est sur une tendance qui est naturelle. Mm-hmm. Et ce qui a le plus progressé, c'est la marche à pied et le vélo. C'est pas les transports en commun qui restent en part modale à un niveau à peu près assez stable par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé. Maintenant, on va vers une évolution où c'est moins la question de la voiture qui va se poser que la question de la mobilité. Alors vous me direz, bon, on est sur des logiques où c'est un peu la poule et l'œuf. Mais à partir du moment où on est sur des modes de transport et de déplacement qui vont impliquer les voitures connectées, qui vont impliquer des modes de déplacement autonomes, une diversité de modes de déplacement. Je disais tout à l'heure, je parlais des vélos par exemple, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Dans les villes, si je me mets à l'échelle des décennies. Hein. Chez nous, on a été un des premiers à le mettre en place. Ça fait maintenant une dizaine d'années, ça fait progresser l'usage du vélo. Ça correspond à une vraie tendance. Mais ceci étant dit, il y a plein d'autres éléments qui vont arriver. Il y a d'autres modes aussi de déplacement, dont on expérimente des bus électriques. Je pense qu'on va y revenir. Oui. Et puis l'hydrogène aussi va arriver dans tout cela. Bref, on est sur une mutation dans les transports, à mon avis, dont on n'imagine pas l'implication dans l'organisation des villes, aussi bien d'ailleurs sur le plan de l'utilisation des ménages, ce dont on parle, que dans l'organisation urbaine, parce que ça nécessite une modification aussi de l'espace public.
Mais ça, vous l'avez fait en considération justement de cette pollution générée par les automobiles. Alors, oui. Soit CO2 quand c'est des moteurs essence, soit particules fines quand il s'agit de diesel. Parce que si on vous a invité en effet, Olivier Carré, c'est parce que vous ne dirigez pas un petit village dans l'Indre-et-Loire ou dans la Lozère. Non, vous dirigez quand même une ville de 300 000 habitants. Voilà.
Oui,
mais si vous n'avez pas la densité de Rome ou de Londres.
Et moi, j'ajoute aussi au-delà des déplacements des ménages, les déplacements des biens et des marchandises. Hein, qu'on oublie tout le temps, mais la logistique urbaine, c'est un sujet à part entière.
Complètement.
Et en termes de pollution, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Donc donc c'est tous ces sujets-là qu'on prend en compte. Mais faut dépasser le cadre seul de la répression de l'automobiliste. Il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion et avoir cette offre qui correspond certes à des questions de santé qui sont là aussi, mais aussi à des évolutions de mentalité.
Tout juste.
Et moi, je le vois chez les jeunes notamment.
Mathieu Lesage, que dit Olivier Carré, c'est très juste, hein, oui. Finalement. Voilà, lorsque la maire de Rome, la maire de Paris ou la justice allemande interviennent, quelque part, ils interviennent peut-être, en dernier ressort. C'est avant qu'il fallait peut-être anticiper tout ça.
Exactement, ça fait très longtemps que ça c'est connu. Je souscris totalement à ce que dit Monsieur Carré. On parle d'urbanisme, d'étalement urbain, de mode de vie carrément, c'est-à-dire le mode de vie lié à l'automobile, la ville éclatée qui fait qu'il y a des disparités, des grandes distances à faire entre l'approvisionnement quand on va faire ses courses, lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on va aussi au centre faire ses loisirs, se cultiver, bref, faire du sport. Et donc tout est complètement éclaté. On parle beaucoup des trajets, domicile, travail, mais pas seulement. Donc on se déplace de plus en plus en voiture, on va de plus en plus loin. L'étalement urbain fait que les villes s'élargissent, s'agrandissent, et évidemment il y a un recul des terres agricoles et des forêts. Donc le problème, c'est cela, c'est vraiment le mode de vie des urbains modernes aujourd'hui. Monsieur Carré a parfaitement raison, et c'est contre cela qu'il faut lutter en priorité. Le diesel, c'est un phénomène important, mais c'est un phénomène qui n'est pas le seul qu'il faut combattre. Ça, c'est un symbole de notre époque. Mais c'est
symbole,
beaucoup plus profond,
voilà,
et plus compliqué que cela.
Vous, c'est ce que vous croyez, Rémi Cornubert, ouais. François Roudier, finalement, il y a un diesel bashing, il y a une haine du diesel. C'est facile de s'attaquer au diesel, finalement, quand on est à la tête d'une grande ville, que, par exemple.
Oui, mais je crois aussi qu'il y a quand même aussi des postures politiques, je dirais pas idéologiques, ce serait faire trop d'honneur à certaines postures politiques. Bah, on attaque le diesel parce qu'on attaque le nucléaire, bon, parce que c'est les dernières choses qui soudent certains partis politiques. Quand on est clair et quand on réagit de façon saine, l'automobile, elle évolue un peu comme la télévision. On avait de l'analogie, qu'on a maintenant du 2K, du 4K. Donc quand on dit diesel, oui, quel diesel? Ok, lorsqu'on parle des diesels dites d'anciennes normes, Euro 3, 4, donc ce sont des anciens diesels, bah, ma foi, oui, c'est diesel pollué, parce que sinon on n'aurait pas investi des milliards pour arriver à des diesels qui polluent plus. Donc effectivement, sortons du parc les véhicules anciens. Le problème de la France, c'est le problème d'un
parc.
Donc
par exemple, la décision de la justice allemande de sortir les vieux modèles, ça vous semble quelque chose qui n'est pas scandaleux?
Nous, on a même toujours été pour les plans qui visaient la sortie des vieux véhicules et essayer de les remplacer par des véhicules plus neufs. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe dans la prime de conversion, où la prime de conversion qui a été lancée par le ministère de l'Environnement et le gouvernement permet d'acheter des véhicules diesel, pas vraiment de dernière génération, mais un peu plus moderne. Vous résolvez des problèmes, mais immédiatement. Donc, je crois que c'est surtout, d'abord, passons sur des véhicules technologiquement plus modernes, et puis après, on entre dans une nouvelle révolution. Vous l'avez très bien décrit, c'est la révolution des véhicules connectés, des véhicules numériques. Nous avons un credo, c'est qu'on pense que le futur du transport en commun, ben, c'est l'automobile. Les gros bus, les gros trains, c'est le siècle passé. On voit très bien que toutes les petites navettes autonomes qu'on voit ressemblent en fait à des petits vannes.
Hein. Rémi Cornubert, le diesel aujourd'hui en 2018. Alors c'est vrai, comme je disais, il y a un débat, est-ce qu'il est vraiment dangereux? Quand on écoute les constructeurs, ils disent le diesel, il rejette moins de gaz à effet de serre que les moteurs à essence. On voit des équipementiers comme Delphi, Honeywell, Bosch qui mettent eux en avant le savoir-faire français en matière de diesel. On voit toute une filière qui se défend, qui en est fier, et on aura demain les résultats de PSA, et on sait que PSA est un des grands acteurs historiques quelque part du diesel. Ce diesel, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui en 2018? Dangereux, nocif ou pas, franchement?
Mais déjà, je pense qu'il faut peut-être revenir en arrière et se demander pourquoi on est arrivé là. Ce qu'on pointe souvent du doigt les industriels en disant sont les fautifs, le régulateur a eu son rôle à jouer. On avait un marché qui était aux trois quarts diesel en France, parce qu'on a mis pendant très longtemps l'accent sur la réduction des émissions de CO2.
au niveau des nouvelles immatriculations, alors que et maintenant le diesel fait, est passé sous les 50% l'an dernier.
Quand on compare un diesel et un essence, ben, le diesel émet 20 à 25% moins de CO2 qu'un moteur essence.
Mais on va dire qu'il va émettre plus d'oxyde d'azote aussi. Donc
on découvre que dans un environnement dense, confiné, très peuplé, ben on a cette problématique de rejet de d'oxyde d'azote et de particules. D'ailleurs, le diesel n'est pas la seule source de particules en ville, loin s'en faut.
Non, bien sûr.
Donc quand on regarde les vrais
chiffres, transport en commun notamment dans le métro, il y en a à Paris.
C'est une contribution certaine, mais c'est pas la seule. Après moi je rejoins François, la technologie a considérablement progressé parce que les normes changent régulièrement. Et donc, pour pouvoir homologuer les voitures neuves, bah, il faut avoir des moteurs qui sont bien moins polluants que ceux qui étaient de normes Euro 3, Euro 4. Et c'est ça le débat. On mélange souvent la problématique du parc avec le marché des véhicules neufs. Alors après, dans les évolutions, évidemment, tout le monde rêve d'un monde 100% électrique ou 100% hydrogène. Ça va pas arriver demain matin. D'abord, il y a à court moyen terme, on va voir se développer les véhicules hybrides, qui est finalement un assez bon compromis, parce qu'on peut être en mode électrique en ville sur 30 ou 40 kilomètres. Faut quand même se rappeler que les trajets en Europe quotidiens, à 80%, c'est moins de 40 kilomètres. Donc largement suffisant pour l'autonomie des véhicules électriques, largement suffisant avec l'autonomie des véhicules hybrides de nouvelle génération. Donc c'est aussi ça la réponse. Quant au transport, oui, effectivement, avant on avait le transport individuel plutôt privé, du transport collectif plutôt public.
Maintenant,
10 juin, bah là maintenant la frontière, elle est plus claire que ça.
Ouais. On parle du diesel dans les villes, pardon, mais là vous venez d'en parler très justement. Dans les campagnes, est-ce qu'on peut resserrer là aussi les taux. On est à Orléans, c'est très bien, superbe ville, métropole, très bien. Et puis on va faire quelques kilomètres, on va se trouver en race campagne. Et là, est-ce que franchement, on peut imposer aux automobilistes, dont on sait que voilà, 82% du parc en France, c'est encore du diesel, hein, François Roudier.
Oui, un petit peu moins encore, mais le diesel, les diesels tiennent bien. Donc effectivement, ils vont durer.
Est-ce qu'on peut empêcher certains de ne plus rouler diesel ?
Alors. Le problème de la pollution est très souvent un problème très local, très centré dans certaines villes, des villes qui sont des cuvettes, les villes allemandes qu'on cite, Düsseldorf, Cologne, pardon, sont des cuvettes. Paris est une cuvette, hein, les Prussiens l'ont bombardé en 70, on sait bien qu'on est dans un trou, et effectivement, vous avez des stagnations. Vous avez des effets climatiques, l'air froid. La semaine dernière, on avait des niveaux de pollution sur Paris, alors que tous les Parisiens étaient en vacances, personne roulait. Donc on voit très bien qu'il y a beaucoup de facteurs qui font quelque chose de très local. Lorsque vous êtes dans une petite ville à Commentry, dans l'Allier, chez moi, bien venteux, vous pouvez rouler avec un diesel 1, vous n'allez pas vraiment détruire la planète. Il faut être aussi conscient que vous avez une population rurale qui est motorisée à plus de 94%. Hein. On n'a que quelques centres-villes où on tombe dans des motorisations au-dessous de 50%. Lorsque vous êtes au niveau de la deuxième couronne de l'Île-de-France, bah vous êtes déjà sur plus de 8 voitures, 8 nages sur 10 qu'une voiture. Donc, les moyens de compensation ne sont pas là. Vous l'avez très bien décrit. Le périurbain qui s'est développé.
Pas de problème.
Reprenons tous les travaux de Jean Viard pour montrer en sociologie comment ce périurbain s'est développé. Ouais. Les gens veulent une maison, une piscine, un chien.
Bah,
pour y aller, il faut avoir une voiture.
Bien sûr.
Vous n'allez pas les faire revenir dans des petits appartements de 2 pièces. Donc, on se retrouve. Alors, c'est pas le cas à Orléans, qui est justement assez bien fait pour ça. Mais j'ai vu certaines métropoles que je citerai pas où on a des centres-villes qui deviennent des ghettos. Puisque ces centres-villes mal équipés se retrouvent à accepter les populations les plus fragiles. Donc on voit très bien que si on a les moyens, on se retrouve en périphérie. Si on n'a pas les moyens en rural, on va garder sa voiture. Les primes de conversion ou autres où on offre 1000 euros sont très intéressantes. Quand la valeur de votre Renault 19 diesel est de 150 euros, c'est pas avec 1000 euros que vous allez en racheter une nouvelle.
Non.
Donc vous voyez, il y a un équilibre derrière qui pour nous est très contraignant. C'est qu'en fait, il y a de l'environnement, il y a de la technique, mais il y a beaucoup de politiques sur lesquelles on peut pas intervenir.
Et Olivier Carré, justement, le politique, sujet très politique, le diesel, la voiture, c'est très politique également.
Absolument.
Voilà. Et on va imposer, on va décréter certaines situations et puis qui ne seront pas applicables à d'autres.
Oui, mais c'est un des vrais sujets. C'est-à-dire que ce que les gens, excusez-moi la familiarité, mais ils veulent pas être emmerdés pour des motifs dont ils ne comprennent pas forcément et à juste titre ils doivent faire les frais de tel ou tel sujet.
Et certains vont dire aussi.
C'est là où il faut un peu de bon sens. Mais de l'autre côté aussi, j'ai une voiture diesel, hein, une 3008, donc une Peugeot, mais il y a aussi tous les débats qu'il y a pu y avoir sur la sincérité des constructeurs, notamment en Allemagne, avec la question
des
moteurs ou pas. Tous ces éléments-là sont des éléments qui perturbent le champ. Ça arrive à un moment donné où des mutations
sont en train d'arriver. Les clients n'ont plus confiance.
Mais nous, par exemple, on travaille aussi sur le fait que il faut d'autres types de services. Faut quelque chose à inventer de nouveau sur les services justement pour le périurbain. C'est-à-dire dans les zones qui sont peu denses, le transport en commun tel qu'il est défini aujourd'hui massivement dans une logique massive, radiale, etc., est totalement inefficace. Il incite justement un certain nombre de personnes à avoir une voiture. Il faut bien voir aussi qu'avec le vieillissement, la voiture est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de mode de déplacement. Et à partir de là, on se doit d'inventer, avec justement les nouveaux outils, des logiques de ce qu'on appelle les déplacements reprogrammés, avec des logiques de petite navette, comme c'était évoqué tout à l'heure, de nouveaux services. Et on revient à la question de la mobilité, de l'usage, et comment est-ce qu'on arrive à se déplacer avec des moyens qui sont différents de celui de la voiture individuelle.
Mais en attendant, il y a toujours de la voiture.
Alors, en attendant, oui. Ouais. Moi, je suis un tout petit peu... j'ai un point de vue un tout petit peu différent sur les logiques de prospective, parce que là-dessus, on lit quand même pas mal de choses à l'échelle mondiale, pas que à l'échelle franco-française, et sur l'échelle mondiale, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui démontrent que ça va aller beaucoup plus vite que ce qui peut être dit et que j'ai déjà entendu aussi dans le champ français. Et c'est là où c'est l'histoire qui va nous qui nous mettra d'accord entre guillemets dans le futur. Ceci étant dit, je pense que ça peut aller très vite dès lors qu'il y a un certain nombre d'environnements normatifs qui sont levés. On l'a vu sur le bus électrique, par exemple, où j'ai découvert que en France, en Allemagne, ailleurs, sur un certain nombre de pays, c'était considéré comme étant une nouveauté, alors que à peu près dans le reste du monde, ça fait 10 à 15 ans que cette technologie est mature, qu'elle fonctionne et qu'elle se développe. Voilà, donc on voit bien qu'il y a aussi des jeux de lobby qui sont compliqués à analyser quand on veut avoir seulement une lecture politique. C'est pas si simple que ça.
La lecture politique, juste, je reviens vers vous, François Olivier, je redonne la parole aux zones Mathieu Lesage et puis Rémi Cornubert, mais cette posture que vous avez dénoncée, de décréter qu'il faut interdire le diesel, alors bon, très bien, bien ou mal, mais enfin, en tout cas, ça y est, on le décrète, les petites lignes de train qu'on va fermer, le 80 km/h, se pose une question fondamentale, la question des libertés dans la mobilité.
Exactement. C'est une énorme question, et sachez que nous avions fait au niveau de notre association internationale une étude auprès de 17 pays, 10 000 personnes interrogées. Le pays qui répondait le plus haut, le plus fort à la question, la voiture est-elle une liberté pour vous, c'est la France. Mmh. Avant les États-Unis, avant l'Allemagne.
Ça, c'était quand, ça?
Et c'était il y a 3 ans.
Oui.
Ça n'a pas changé. On voit certaines études qui montrent qu'on a un retour du plaisir automobile chez les millennials. Des études qui sont d'ailleurs des études suivies et qui montrent que finalement, oui, ça participe de leur liberté, et donc on remonte, on veut une voiture, on veut vivre ce qu'ont vécu les parents avant. Les jeunes rachètent des 206, des 205 GT parce que
pas pour
c'est très
alors.
Moderne. voilà. Mais justement, ils ont un problème parce qu'ils ne veulent plus les faire rouler dans les villes. Voilà. Donc
ça va être compliqué.
Donc on a une approche.
En écoutant Delegation et Chalimard.
Voilà, mais ça fait. Voilà. Et tout ça fait qu'effectivement, nous, on pense que le sujet de la mobilité, globalement, est un sujet qui devient hyper politisé, qui va être un des sujets sûrement des prochaines municipales, qui risque d'être en haut de la pile. Ce sujet-là, il concerne toute la chaîne de mobilité. Lorsqu'on parle, nous, de la transition écologique, il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de borne de recharge pour les véhicules électriques, comme l'a dit Rémi, pour les véhicules hybrides rechargeables. On ne peut pas le faire. Et ça, ce n'est pas nous qui pouvons mettre en place ces recharges.
Mathieu Lesage, Olivier Carré, la question des libertés dans la mobilité, ça pourrait être un thème important. important dans les pour les prochaines municipales dans deux ans, 2020?
Ah oui, la mobilité, c'est un thème absolument fondamental. Sur le rôle de la voiture, il reste de toute façon tout à fait prégnant. C'est-à-dire qu'il y avait un sociologue qui avait dit quelque chose d'intéressant et pertinent à ce sujet-là. Quand la machine à laver, quand le frigo ont été inventés, forcément, au début, tout le monde s'est rué dessus. Et aujourd'hui, ça ne fascine plus grand monde. Tout le monde a son frigidaire ou une machine à laver, mais tout le monde en a. Et la voiture, c'est pareil. Au début, avec son émergence, on voulait avoir plus puissant, plus rapide, peut-être plus brutal parfois pour affirmer sa virilité. Aujourd'hui, il y a moins de fascination sur ces thèmes-là, ces caractéristiques premières de la voiture. En attendant, il en faut toujours et on continue à acheter des voitures, à se servir de la voiture comme un mode de déplacement fondamental. Et puis, pour revenir au débat que l'on a, finalement, en Allemagne, c'est le même débat, hein, même si la Cour fédérale allemande a autorisé les villes maintenant à évincer les véhicules diesel les plus anciens de leur centre-ville. Bien, la ministre, Madame Hendricks, a rappelé que les villes avaient une autre option, c'est de mettre en place des réformes importantes, la réorganisation des transports dans leur centre-ville, dans leur ville, pour pouvoir éviter
l'interdiction
voilà. Tout simplement, parce que ce sera un coût politique important. Exactement. Pour elles. Donc, il y a cette alternative-là qui existe toujours, et c'est ça qu'elles doivent surtout mettre en place.
Oui, alors, qui? Alors, Rémi Cornubert, Olivier Carré. Rémi Cornubert,
Advancé. Dans la discussion, c'est qu'on oublie l'aspect économique. Quand on regarde sur une longue période, le développement de la mobilité des personnes comme des marchandises est fondamentalement lié au développement économique. Donc si on casse la mobilité, on va casser le développement économique. Et ça, c'est juste pas acceptable au niveau de la société.
Olivier Carré.
Une question de liberté individuelle.
Maire d'Orléans, enjeu oui, politique.
Mais ça, c'est absolument clair. Et il y a des enjeux politiques parce que il y a un enjeu sociétal. C'est que la société elle-même, elle est en train d'évoluer. Même si j'entends là sur l'histoire des milléniums, moi je vois aussi le nombre d'adolescents qui sont clients de Blablacar d'autres formules.
On voit bien qu'aujourd'hui,
même avant, on pouvait mettre une sorte de catégorie sociale derrière tel type de mode de déplacement, le bus, le tram, le machin, la voiture, etc. Aujourd'hui, c'est pas possible. Vous avez des gens à très haut niveau de CSP qui vont utiliser le tramway, des gens beaucoup plus faibles qui chercheront à se déplacer en voiture. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de codes sont cassés. Et pourquoi? Parce qu'on va justement vers l'usage. Moi, je reste toujours sur cette fonction-là. Et comment est-ce qu'une ville s'adapte à cette mobilité tous azimuts? C'est ça l'enjeu. Ça, c'est un gros enjeu de l'organisation des villes d'aujourd'hui.
Bon, le maire d'Orléans, Olivier Carré, qu'on va retrouver dans un instant, François Roudier, Mathieu Lesage, Rémi Cornubert, le diesel est-il cerné? On verra d'ailleurs quelle est la réplique des constructeurs automobiles. Et puis si c'est les constructeurs automobiles, ont vendu beaucoup de voitures en France au mois de février. À tout de suite avec les décodeurs sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
À l'allemande qui donne le feu vert, donc là, qui donne la possibilité à certaines villes, d'interdire les moteurs diesel les plus anciens. C'est Hambourg, la deuxième ville allemande, justement, qui pourrait dégainer, être la première à installer. Allez, d'ici un mois et demi, fin avril, des panneaux interdisant le passage à certains véhicules diesel. C'est ce que la municipalité de Hambourg expliquait. Et puis ce matin, on l'a entendu tout à l'heure, la maire de Rome, Madame Raggi, qui annonçait qu'le diesel serait banni de la capitale italienne en 2024. Alors il y a ça, François Roudier, porte-parole du CCFA, les constructeurs français d'automobiles, il y a ça. Il y avait également cette défiance, il y a un petit peu moins de 3 ans, autour des moteurs truqués, donc des grands constructeurs allemands, mais pas que, a priori, puisqu'il y a eu des doutes aussi sur d'autres constructeurs. Il y a ce doute aussi sur les émissions polluantes, le NOx notamment. Comment l'industrie automobile, elle réagit justement, sachant qu'on achète de moins en moins de diesel, puisque en France, les immatriculations neuves sont passées sous les 50% en 2017, versus les 2/3 à l'apogée du diesel. Qu'est-ce que vous faites, vous, les constructeurs, pour réagir?
Écoutez, pour un constructeur, c'est assez difficile de raccourcir ses temps de fonctionnement. L'égalité diesel-essence, on l'avait prédit, nous, plutôt arrivant vers 2020. Elle est arrivée en 2017. 3 ans, c'est énorme. 3 ans, c'est énorme parce que vous avez quasiment tous les constructeurs qui annoncent des nouveaux produits, voitures électriques, hybrides rechargeables, qui seront proposés en 2019-2020. qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Entre les deux, on voit un diesel qui, effectivement, dont le marché s'effondre, et derrière, vous avez des conséquences terribles pour l'industrie. Bruno Le Maire devrait recevoir les responsables de la filière automobile concernée par le diesel le 12 avril. Bercy a annoncé 12 000 emplois qui peuvent être menacés.
Ah, oui.
Alors, vous avez...
Bruno Le Maire qui a annoncé il y a quelques mois, justement, la fin de l'avantage fiscal pour... Enfin, en tout cas, la réduction, l'avantage fiscal du diesel.
Voilà. Et on est sur des productions qui peuvent être très difficiles. Bon, les chaînes de montage se changent pas en un tournement. Et certes, on a à produire beaucoup de moteurs essence, mais il faut reconvertir les
Comment
gens.
Comment on passe du diesel à l'essence comme ça
C'est difficile pour nous.
Et à l'électrique.
Alors, c'est encore pire. Alors, l'électrique, un moteur électrique demande 9 fois moins de personnes qu'un moteur thermique. On fait quoi des gens qui restent? Et vous avez...
C'est le FT qui annonçait avant-hier que Fiat Chrysler devra abandonner le diesel pour la motorisation de ses voitures particulières en 2022, à cause de la chute de la demande.
La chute de la demande. La chute de la demande pousse actuellement l'essence. Alors, heureusement, dans les années de crise, on a investi dans, enfin, nous, constructeurs français, dans des moteurs 3 cylindres essence qui marchent très très bien. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on vend le plus. On croyait que ce serait que sur les petits véhicules. Et maintenant, vous avez des véhicules de taille conséquente, je pense au 3008, qui est à plus de 45%
la voiture de Olivier
en
Carré.
Commande essence.
Mais qui est mieux étant
diesel. Ces moteurs, vont consommer plus, finalement. Donc, vont émettre plus de CO2.
Eh oui.
Donc, le mauvais côté de tout ça, c'est que on voit, et je peux le dire, c'est peut-être un scoop ce soir, le CO2 français remonte. Le CO2 du marché français remonte.
De quelle ampleur? Vous avez des tendances, des chiffres là-dessus?
On va être au-dessus de 110 grammes de CO2 par kilomètre, peut-être toucher les 111 grammes, ce qui était une tendance qui allait à la baisse avant avec le parc diesel.
Donc ce que vous nous dites, c'est de moins en moins de diesel, on compense avec de plus en plus d'essence, donc de plus en plus de CO2.
Et l'objectif pour la Commission européenne est d'avoir les constructeurs européens à 95 grammes de CO2 par kilomètre. Et là, on aura des amendes.
À 110.
En 2021.
Et là, on est à 110.
Là, on est à 110, peut-être même plus. Donc, on voit, et les amendes sont colossales. Les constructeurs allemands sont tous à plus de 1 milliard d'euros d'amendes par an. Sur cela. Donc en fait, il y a tout un système.
L'industrie n'est pas prête à assumer ce type d'amende colossale.
Non, franchement, non. Et alors le point aussi qui est à noter, qui est très dur, c'est au niveau régional où vous avez des équipementiers qui ont des usines monoproduits diesel qui ne pourront pas tenir parce que la technicité du diesel demande une valeur ajoutée de travailleurs qui n'existent pas dans l'essence.
Qui ne pourront pas tenir.
Ça sera délocalisé en Europe de l'Est. Les trois grosses usines d'équipement diesel ne sont pas françaises. Ouais. Voilà. Donc de notre territoire est peut-être limité.
Ces usines ne pourront pas tenir. Et quand on cherche des véhicules à essence, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de moteurs à essence. Donc les délais s'allongent. Vous n'arrivez pas à produire.
PSA, devant la demande, a été forcé d'importer ces moteurs qu'ils produisaient en Chine.
Dingue.
Voilà. Et les usines de Renault en Espagne tournent à plein sur les moteurs à essence.
Et l'électrique, pour l'instant...
L'électrique fonctionne bien. Attention, l'usine de Cléon en moteur électrique tourne à plein.
Oui, mais ça va jamais compenser. On plafonne toujours à 1,5 à peu près des immatriculations.
Pour démarrer un marché comme ça, il va falloir vraiment que les gens puissent recharger.
Tout juste. Olivier Carré, qui est avec nous, à la tête de la métropole d'Orléans.
Oui, mais là c'est plus le citoyen ou l'économiste là qui réagit, parce que effectivement, on est en face de technologies de rupture. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la continuité. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et si on rajoute la voiture connectée avec la question des chauffeurs, si on rajoute les mécaniciens avec un changement entre un moteur thermique où il faut effectivement à peu près 9 à 10 fois moins de personnel pour entretenir sa voiture, avec les coûts pour le consommateur induits, parce qu'il perd sur la batterie, mais il gagne beaucoup sur l'entretien. Donc on a toutes ces mutations et qui sont de véritables ruptures. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je vois des constructeurs, notamment asiatiques, qui sont sur des technologies relativement matures et autres, et des constructeurs européens qui, à force de dire « ça ne va pas arriver », sont dans une situation où ils vont un jour se faire cornériser. Les 1,5% que vous évoquiez tout à l'heure, moi, ça me fait penser aux chiffres qu'on avait sur Internet à l'époque du Minitel, où on considérait que c'était qu'il y aurait une transition douce entre le Minitel, une transformation vers l'Internet, etc. C'était dans les années 80-90 que j'ai vécu, et où j'entendais ces discours, et puis je voyais en Californie que l'Internet qui était confidentiel était en train de devenir un truc qui embarquait tout. Et dès lors qu'on a commencé commencé à avoir des modems qui avaient une certaine puissance, tout le monde s'est lâché d'un seul coup et c'est devenu un truc massif que personne n'a pu enrayer. Voilà, donc c'est ça qui me fait un peu peur.
Mathieu Lesage, avocat au barreau de Paris, le think tank automobilité à venir.
De toute façon, il va falloir bouger parce que on va en parler à un moment ou un autre, mais il va y avoir des actions en justice. Ça veut dire que le diesel est cerné, les autorités, les pouvoirs publics sont bientôt cernés.
La France n'est pas à l'abri de poursuites, c'est ce que vous dites.
Ah non.
Et la France et l'État et les collectivités.
Chacun, les constructeurs aussi, mais dans un autre registre différent, les industriels.
Sur quelle base on pourrait être l'État, les collectivités, les constructeurs pourraient être poursuivis? C'est Rémi Cornubert tout à l'heure à Advancy qui l'abordait. C'est quoi? C'est carence fautive face au pic de pollution. Les échos rappellent que l'État fait déjà l'objet d'une trentaine de recours devant les tribunaux administratifs. Voilà.
Oui, je pense que ça n'est qu'un début. En réalité, il y a toute une base juridique qui permet d'attaquer l'État. Si on parle que de l'État français, déjà une base européenne, en droit européen, où par exemple l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui par le biais du droit à avoir une vie familiale et privée convenable, vous dit que vous avez le droit de respirer un air pur. Le droit français est très important aussi, la charte de l'environnement.
Ouais.
Là, c'est une valeur constitutionnelle. Vous pouvez l'invoquer directement. Vous avez le droit de respirer un air sain, tout simplement.
Il y a un certain nombre de recours qui ont été faits par des individus, des particuliers justement, qui estiment que leurs problèmes de santé, leurs difficultés respiratoires, etc., c'est dû au diesel justement. Et les échos citent le cas d'une plaignante qui réclame 140 000 euros de dommages-intérêts.
Il va falloir prouver que
les
problèmes médicaux et physiques sont liés à ça, effectivement. Mais l'avocat, c'est Maître Laforgue, mon confrère, il invoque notamment le code de l'environnement. Il a parfaitement raison. Il saisit les tribunaux administratifs. Il a raison aussi. C'est un vieux principe, ça. C'est l'incompétence négative de l'État. L'État ne fait pas ce qu'il a à faire.
Ouais.
Non, il fait pas assez du tout. Donc on lui demande de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ses propres normes. Le Conseil d'État l'a fait aussi en juillet 2017. Ça n'a pas été trop dit, mais une association avait saisi le Conseil d'État contre l'État, justement, contre le gouvernement. Et le Conseil d'État a donné jusqu'au 31 mars 2018 pour prendre les mesures nécessaires, les mesures utiles pour respecter les seuils limites de pollution de l'air, jusqu'au 31 mars 2018.
Il y a une épée de Damoclès qui pèse au-dessus des collectivités, de la puissance publique, des constructeurs également. Un mot chacun, Rémi Cornubert, François Rodier. Puis vous me direz, vous, si vous craignez, vous, le maire d'Orléans, quelque part, des poursuites à votre auteur. Allez-y,
Rémi Cornubert. D'ailleurs, il y a même un autre type de procès qui peut voir le jour, qui est à nouveau économique, qui est le fait que des citoyens attaquent des villes qui interdisent certains types de véhicules et dont la valeur résiduelle baisse brutalement.
Ah.
On avait fait un petit calcul, si par exemple la valeur résiduelle du parc diesel baissait de 50%, c'est 40 milliards.
40 milliards qu'on pourrait demander aux grandes villes qui tout d'un coup interdisent le diesel.
On est dans cette espèce de...
Parce que la voiture vaut plus grand chose, c'est ça.
Les gens se retrouvaient avec une voiture qu'ils avaient achetée, ils savaient pas où l'interdiction était pas encore en place, et du jour au lendemain, il y a une valeur. Alors, on les voit pas chuter trop fortement. On s'attendait, je pense, tout le monde à avoir des valeurs résiduelles du diesel baisser bien plus fortement. C'est plutôt quelques pourcents.
Olivier Carré, vous, le maire d'Orléans, vous craignez un recours en justice?
C'est déjà engagé, en tout cas.
Vous pouvez. Pardon, ce que vous dites, Mathieu Lesage.
Excusez-moi. Je suis désolé, mais pour ce sujet-là, ça a déjà été engagé par des avocats. Alors, il n'y a pas de décision encore rendue, mais en tout cas, pas de décision favorable pour les automobilistes, mais ça a déjà été engagé.
Olivier Carré.
Bon, on peut toujours craindre des procès dans tous les sens. Mmh. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on est efficace pour les citoyens. Les juristes, c'est passionnant, mais enfin bon, moi ce qui m'intéresse, c'est les citoyens, ceux qui portent plainte dans un sens ou dans un autre, comme ça vient d'être appelé, aujourd'hui nous amène à avoir des décisions peut-être à court terme, mais surtout qui soient efficaces sur le long terme. Moi, c'est ça ma préoccupation, et c'est là-dessus que j'engage des vrais politiques plus qu'à court terme.
Pardon, pas forcément sur le long terme, parce que la Commission européenne a déjà convoqué la France et 8 autres États membres.
Sur le long terme, c'est 2020.
Ça, c'est oui.
Pour moi, c'est du long terme.
D'accord, oui, parce que la Commission européenne va pas laisser beaucoup plus de temps à ces 9 États, dont la France, pour prendre des mesures
la réglementation. Non, mais
le lui a dit, il a réuni le 30 janvier en disant, mais prenez des vraies mesures, pas des mesures de ripollinage qui vont faire ou qui feront effet dans 20 ans. C'est maintenant que vous devez bouger. Sinon, la Cour de justice sera saisie et vous serez attaqué. Et donc, des amendes fortes devront être payées.
Oui, bien sûr. Allez, François Roudy, encore un mot, puis on parlera de la tendance de février.
C'est paradoxal, mais ce qui peut être intéressant quand même et positif, c'est que lorsqu'on passe dans le domaine juridique, il faut qu'on apporte des preuves. Mmh. Et donc, il faut qu'on fasse des études. Et certaines décisions qui ont été prises sur des postures politiques se sont basées, d'ailleurs ont été rejetées, je ne sais pas, la grande ville qui a la Tour Eiffel, se sont retrouvées rejetées parce que, justement, on n'avait pas une justice sérieuse. Mmh. Et on peut penser, justement, que maintenant, lorsqu'il y aura vraiment des procès ou des attaques juridiques sur ces sujets, on devra fournir des preuves. On est capable de savoir d'où vient une particule. Mmh. La métrologie, le calcul des particules, on sait exactement si la particule vient d'un feu de bois, d'un diesel, de l'essence.
La métro, etc.
Tout ça permet à la fois sur les points techniques, sur les points plus généraux, le report des circulations, tout ça va être mis au jour. Et finalement, c'est plutôt positif.
François Roudier, au moment où on se parle, on est encore en février, le 28 février, pendant la rediff de nuit, on est déjà le 1er mars, premier jour du mois. Attend les résultats de PSA donc ce jeudi matin. C'est quoi ? Il y avait une très bonne année 2017. Ouais. Quid des ventes du mois de février ?
Écoutez, je ne peux pas donner, même sous la torture, le chiffre exact, mais je peux vous dire que les ventes sont bonnes. Les ventes sont bonnes et on pense que l'année est bien partie. On calcule une prévision qu'on donnera la semaine prochaine au Salon de Genève. Et on pense qu'effectivement, les ventes...
Une tendance de quoi ? Plus 3,5, 4% sur 2018 ?
Dans des eaux comme ça, selon des conditions économiques normales. Hein. Les nouvelles sont bonnes à la fois sur les entreprises... Le bon indicateur que sont les camions et les véhicules utilitaires, ça marche très très bien. On a des logements neufs qui sont mis en chantier, donc tout ça fonctionne bien.
Malgré la répression qu'il y a dans les grandes villes, justement, où on a du mal un peu à intégrer, à circuler, et vous parliez de Paris
Oui, mais vous avez une offre produit qui est très séduisante, donc les clients vont vers ces produits-là. On essaye de répondre à ce paradigme de la... Vous savez, ce paradoxe de la société française qui est à la fois individualiste et communautariste. Donc communautariste, on veut avoir la même voiture que tout le monde. Individualiste, il faut qu'elle soit dans des couleurs différentes. Donc c'est assez étonnant, on voit que ça fonctionne.
Donc les camions, les utilisateurs, ça fonctionne bien pour les véhicules particuliers.
C'est bon aussi, bon aussi parce que on a
à la marque française, marque étrangère.
Voilà, les marques françaises visiblement continuent de très bien progresser. L'offre produit qui va de la petite voiture jusqu'à la voiture taille moyenne familiale est vraiment au cœur de cible.
Les résultats de PSA ce jeudi matin, il paraît que 2017, ça sera l'année PSA, oui.
Ça va être une très bonne année. Je pense que ça va être une très bonne année parce que vous avez des résultats de la division automobile qui sont excellents. Vous avez un retour des ventes dans des pays qui avaient quasiment disparu, l'Iran en particulier. Bon, l'Asie marche pas très bien pour PSA, mais le reste est assez conséquent. À périmètre normal, puisque de toute façon, en ayant absorbé Opel, les ventes augmentent de toute façon.
Donc on va continuer à acheter autant de voitures malgré la fermeture des centres-villes, malgré le prix des amendes, malgré les carburants à la hausse.
On est dans un monde cyclique dans l'automobile. Hein, donc c'est maintenant qu'il faut faire les efforts, c'est maintenant qu'il faut mettre en place ce qu'on peut faire pour la transition écologique. C'est pas quand on sera dans le bas du cycle qu'on va investir.
Ça, c'est vrai. Eh bien, merci à tous. Merci François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobile. Bon, qui n'a pas craché le chiffre, je le regrette, mais bon, voilà, faudra surveiller ça. Ben, probablement, donc, aller dans la matinale de Stéphane Soumier. Ouais. Good morning business, donc tous les matins, 6h, 9h. Merci Rémi Cornubert, associé dans le cabinet Advancy, chargé de la mobilité du futur. Le maire d'Orléans et président de Orléans Métropole, Olivier Carré, et puis l'avocat Mathieu Lesage, avocat au barreau de Paris et du think tank Automobilité et Avenir. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite ce jeudi soir. On parlera des élections italiennes. C'est ce dimanche et on sera avec Jean-Claude Trichet notamment.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.